Bienvenue chez les protestants de l'église réformée du Bouclier à Strasbourg. Voici la méditation de ce dimanche.
Nous lisons la Bible, les relations entre mari et femme. Obéissent les uns aux autres par respect pour le Christ, les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le serviteur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, enfin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on l'y nourrit. On prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Dans le livre Saint, on lit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule personne. » Ce mystère est grand. Et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même. Et la femme doit respecter son mari.
Les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. C'est une phrase difficile à entendre pour nous aujourd'hui. Pour être honnête, cette phrase mille fois discutée nous semble même dépassée aujourd'hui. Quand nous avons choisi le thème du couple, nous ne souhaitions pas discuter de cette image de la femme, en quoi la femme peut être inférieure à l'homme. Il nous a semblé beaucoup plus intéressant de voir la suite du texte. Quelques versets plus loin, il est dit « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. » Vous voyez, Marie, époux, ce que vous devez être prêt à faire. Ce type d'engagement n'est plus très moderne. Il semble même dépassé aujourd'hui. Être prêt à donner sa vie pour sa femme, nous, ça nous paraît assez difficile et un peu dépassé, à vrai dire. Nous qui sommes jeunes et non mariés. Ce qui nous a paru intéressant, c'est plutôt le verset suivant. Un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Le corps qui est aujourd'hui lié à régime, obésité, sport, perfection, beauté, publicité. Et j'en passe. Le texte continue. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Combien de personnes aiment aujourd'hui leur corps, vraiment, dans sa totalité? Je pense peu. Cela nous semble être impossible aujourd'hui. Car la société nous renvoie toujours une image parfaite et irréelle de notre corps. Et si quelqu'un disait « Moi, j'aime mon corps », il paraîtrait très arrogant. Pourquoi ? Pourtant, la Bible nous dit d'aimer son corps. Car aimer son corps, c'est s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est aimer l'autre. C'est la condition pour le couple, nous dit la Bible. Et c'est aimer l'autre, c'est s'aimer soi-même. Dans une époque où s'aimer soi-même est si difficile, peut-on encore prétendre aimer l'autre ? Si on ne s'aime pas soi-même, peut-on aimer l'autre? Le couple en lui-même est-il donc malade? Impossible? Quand on voit par exemple qu'un mariage sur deux se termine par un divorce. Peut-être notre vision du couple est malade, au sens où il s'agit souvent d'être performant pour que l'autre nous aime. La société nous dit qu'il faut être beau, intelligent, avoir un bon travail, un bon salaire, pour prétendre trouver un partenaire. Et peut-être mélangeons-nous la concurrence de notre vie quotidienne, à l'école, à la fac, au travail, avec la conquête de l'autre. Gagner l'amour de l'autre n'est pas le même combat qu'écrire un examen ou que d'avoir un bon poste. Peut-être faudrait-il arrêter de regarder l'autre comme un objet de performance, un objet pour lequel il faut être performant, mais plutôt regarder l'autre comme quelqu'un qui est tel qu'il est et regarder l'autre tel que moi je suis vraiment. Je dois être moi-même pour aimer l'autre et l'autre doit être lui-même pour que je l'aime. Être sans avoir à remplir de conditions. Ne plus poser la question « Que fais-tu ?» qui est alors basée sur les performances, mais la question « Qui es-tu ?» Car c'est là la vraie question, l'identité. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Dans le texte, « corps » prend peut-être plutôt le sens du corps tout entier, l'âme comprise, et non seulement l'enveloppe. Car l'enveloppe est ce qui est le plus valorisé aujourd'hui dans notre société. Nous faisons du sport pour notre enveloppe, nous nous nourrissons pour notre enveloppe, parfois nous dépensons même plusieurs milliers d'euros pour corriger une erreur de notre enveloppe. Mon nez est trop gros, j'ai trop de rides, mon biceps n'a pas la forme que je veux. Mais qu'en est-il de l'âme ? Soignons-nous notre âme comme nous soignons notre corps ? D'ailleurs, qu'est-ce que cela veut dire de cultiver, de soigner son âme ? Avoir une bonne culture générale ? Faire de la philosophie ? Devenir bouddhiste ? Ou se connaître ? Devant les multiples possibilités d'être aujourd'hui dans notre société mondialisée, il est très difficile de prendre conscience de qui on est. Est-ce que nous savons, est-ce que nous avons et est-ce que nous prenons le temps de nous demander qui nous sommes ? Car se connaître, nous dit la Bible, c'est le chemin vers l'acceptation de soi. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas s'accepter. Et si on ne s'accepte pas, si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer l'autre. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même.
Donc, j'aimerais vous raconter une histoire. Prenons un garçon, Roméo, et une fille, Juliette. Nous sommes en 2015. Juliette voit Roméo pour la première fois à la fac. Il est déjà en deuxième année, il est beau, populaire, drôle. C'est ce qu'on dit de lui en tout cas, car elle ne lui a jamais parlé. Elle cherche un peu sur Internet, apprend son nom de famille et trouve son profil Facebook, ce réseau social où tout le monde peut parler à tout le monde. Parler ou plutôt écrire. Juliette le demande à un ami et la conversation commence. Après quelques minutes d'échange, elle croit connaître le contenu de 20 dernières années de sa vie. Elle est tombée amoureuse. Une semaine plus tard, elle apprend par Facebook qu'il participe à une soirée de la fac. Quelle aubaine ! Elle va y aller aussi. À la fin de la soirée, Roméo et Juliette sont en couple. Une fois chez elle, elle se pose plusieurs questions. Est-ce que je l'aime vraiment ? Est-ce que je veux vraiment quitter mon statut de célibataire et me fixer dans une relation ? Est-ce que je veux prendre un tel engagement ?
Pas sûr. Qui sait ce qu'il se présentera demain ?
Elle eut une rapide pensée pour cet autre garçon qu'elle avait remarqué ce soir. Mais elle est fière de pouvoir annoncer sa performance à ses copines demain.
Pendant notre week-end à Orbe, nous avons parlé de notre image du couple. Nous avons parlé de la manière dont on se met en couple aujourd'hui. Évidemment, notre histoire de Roméo et Juliette est exagérée, mais la vérité n'est pas très loin. Nous avons remarqué que pour nous aussi, l'engagement fait peur. Tant de possibilités s'offrent à nous, nous ne voulons pas restreindre notre liberté en choisissant une voie. Car choisir, c'est renoncer. Et renoncer peut être vu comme une perte de liberté. Nous avons peur des décisions qui nous engagent sur une longue durée. Et nous désirons seulement ce qui est facile à obtenir. Un ami sur Facebook, par exemple. Chaque décision est une prise de risque. Comment savoir que l'homme que je choisis aujourd'hui à 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, sera un bon mari pour les 50 prochaines années. Comment savoir que la femme que je choisis aujourd'hui sera une bonne épouse pour les 50 prochaines années ? Et la question se pose alors, est-ce que le fait de ne pas prendre de décision ne serait pas aussi une perte de liberté? Ne pas choisir, c'est aussi renoncer. Renoncer à l'engagement, renoncer à quelque chose de moins superficiel que seulement l'enveloppe. Être un couple, c'est devenir comme une seule personne, nous dit la Bible. C'est un grand mystère, dit-elle aussi. Il est évident que ce mot mystère signifie qu'il n'y a pas une forme de couple. Être comme une seule personne, c'est plutôt un idéal, sans doute jamais atteignable. Il y a autant de manières d'être en couple qu'il y a de couples. Chacune des deux personnes évolue, et ensemble, le couple évolue aussi. Ensemble, en même temps. C'est un combat pour un équilibre quotidien, un équilibre entre l'amour de soi et l'amour de l'autre. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Aimer son corps et aimer l'autre, c'est un travail quotidien sur soi qui dure toute la vie. Aimer, c'est trouver l'harmonie avec l'autre, c'est bien réagir aux changements et c'est parfois aussi, malheureusement, accepter que des changements fondamentaux conduisent à la rupture. Et justement, la pression de la vie quotidienne est partagée entre les deux personnes. Le fardeau est partagé. La vie en communauté est généralement plus facile que la vie où il faut prendre toutes les décisions seules. C'est un soulagement de pouvoir compter sur l'autre, sur Dieu. Nous ne sommes pas libérés de la décision à prendre, mais nous savons que nous sommes soutenus par notre partenaire, par les autres, par Dieu. C'est un pari à faire, une confiance à avoir, en soi, en l'autre, en l'avenir et en Dieu. Nous disons oui une fois, et ce n'est pas une perte de liberté. Ce oui, cette promesse, de la part de notre partenaire, mais aussi de la part de Dieu, cette promesse se renouvelle tous les jours. C'est une promesse fidèle. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Que la parole de Dieu soit pour vous l'assurance, aujourd'hui et toujours, de son amour.